tout de suite, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec les moyens, toujours et encore, d'endiguer l'épidémie de Covid-19 en France, même si les effets du reconfinement ne seront visibles que dans 2 à 3 semaines. Certains évoquent déjà une amorce d'infléchissement.
Dans votre journal également, la Société Générale qui a annoncé ce matin prévoir la suppression nette de 640 postes en France.
Oui, faut-il y voir une conséquence de plus de la crise sanitaire ? Réponse dans ce journal.
Un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur aujourd'hui dans les lycées.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Edouard Geffrey. Frais, directeur général de l'enseignement scolaire.
L'actualité en France, toujours et encore, avec l'annonce de la candidature hier de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022.
À l'étranger, cette fois-ci, nous irons tout d'abord aux États-Unis où Donald Trump n'a toujours pas à cette heure concédé sa défaite, ce qui risque bien entendu de compliquer la transition avec son successeur Joe Biden. Et puis nous nous rendrons en Éthiopie où la guerre menée par le gouvernement contre la province du Tigré dure depuis maintenant une semaine. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et bien, quant à nous, on va tenter une photographie mondiale en repartant de la France, mais aussi l'Autriche, l'Afghanistan. A-t-on affaire aujourd'hui à un djihadisme sans frontières, 5 ans après les attentats du 13 novembre et alors que la France fait face à une nouvelle vague d'attaques depuis plus d'un mois? Comment interpréter ce nouveau moment terroriste et comment penser la réponse? Invité Gilles de Ronceau.
La France va-t-elle bientôt voir les premiers effets du confinement? La question est évidemment dans tous les esprits, alors que les contaminations grimpent et que le bilan dépasse désormais les 40 000 morts depuis le début de l'épidémie. Ce matin, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a concédé avec prudence qu'il y avait bien une amorce de fléchissement pour la région Île-de-France. La veille, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui évoquait lui un frémissement, tout en estimant qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l'efficacité de ce reconfinement allégé. Seule certitude, 271 malades du Covid-19 sont décédés dans les dernières 24 heures et avec 4527 patients en réanimation et soins intensifs, la pression reste considérable sur les services hospitaliers. Alors pour faire face justement à l'afflux de malades atteints de la Covid-19, le SAMU du CHU de Toulouse a eu l'idée, lui, de monter un hôpital mobile. L'unité portée par un camion fait 6 mètres de long avec 5 boxes médicalisées pour un poids total de 10 tonnes. Un équipement en grande partie financé par l'Union européenne et dont l'intérêt réside évidemment dans sa rapidité de déploiement. Reportage à Toulouse, signé Stéphane Iglesis.
Il avait fallu plusieurs jours pour installer l'hôpital de campagne de Mulhouse au printemps dernier. Là, c'est fait en 20 minutes chrono et ça change tout. Vincent Boone, directeur du SAMU 31.
Un hôpital qui se déploie en 24-48 heures sur des victimes d'attentats, c'est pas quelque chose qui va nous être utile. Voilà. Ça a deux exigences. Premièrement, rapidité de mise en œuvre et deuxièmement, l'autonomie totale. Voilà, vous avez vu, on est relié à rien, il n'y a pas de réseau autour. Mais pourtant, on a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a de l'oxygène, il y a les brancards, il y a les patients, il y a tout ce qu'il faut. Voilà.
Vous voyez, il résiste à, par exemple, à 2 mètres de neige sur le toit. C'est prévu pour résister. Les murs sont traités contre les radiations.
Thomas Pardon est infirmier au SAMU 31 et avec cet hôpital mobile, il travaille comme à la maison.
Là, on a mis le minimum, mais on peut y rajouter de quoi ventiler un malade, un respirateur. On rajoute des bouteilles d'oxygène. On a tous les systèmes de perfusion, de pousse-seringue électrique. On peut accrocher les perfusions. On peut arriver à gérer un malade de réa ici.
Frédéric Tribet de Cégélec Défense et Solutions précise les caractéristiques de cet hôpital mobile de 18 places.
Il est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on a dû intégrer tous leurs équipements, tout le matériel, les brancards, tout est intégré dedans, les pousse-seringues sont intégrées dedans, les respirateurs, tout est absolument intégré dedans, et les produits morphiniques aussi.
L'équipement pensé pour des attentats s'adapte donc à la montée en puissance du Covid et d'autres exemplaires devraient voir le jour dans les années qui viennent.
Alors, on le voit, s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions en termes sanitaires sur l'efficacité de ce reconfinement. Il semble bien, en revanche, qu'économiquement, ces nouvelles contraintes automnales seront beaucoup moins pénalisantes que celles mises en place au printemps dernier. Selon la Banque de France, elles devraient amputer l'activité de quelque 12% ce mois-ci contre 31% au mois d'avril. La Société Générale a, elle, annoncé ce matin la suppression nette de 640 postes sans départ contraint sur la direction. Il faut dire que le groupe bancaire doit faire face à un environnement certes compliqué par la crise du coronavirus. À ceci près toutefois que l'établissement avait déjà prévenu qu'il entendait améliorer la rentabilité de ses activités de marché, notamment au travers d'une réduction de coûts d'environ 450 millions d'euros à l'horizon 2022-2023. Alors effet Covid ou pas, élément de réponse avec Marie Viennot.
C'est dans la banque de financement et d'investissement que ces 640 postes vont être supprimés. Autrement dit, ce n'est pas la banque de détail qui est visée par ce nouveau plan de réduction des coûts, mais les activités de la Société Générale sur les marchés financiers. Les postes concernés sont à Paris et à Nantes. Ce sont des postes de traders, mais aussi des fonctions support, c'est-à-dire techniques, comptables, conformité, associées à ces activités de marché. Cette décision est-elle liée à la crise du Covid ? Oui et non. Oui, parce que ces activités de marché ont très mal vécu le début de la crise sanitaire début mars et qu'au deuxième trimestre, les résultats de la Banque de financement et d'investissement de la Société Générale ont été dans le rouge. La Société Générale souhaite dorénavant réduire son déploiement sur les produits structurés les plus complexes et les plus liés aux aléas du marché. Pourquoi cette décision n'est pas forcément liée à la crise du Covid ? Parce que la Société Générale vient tout juste d'achever un plan de suppression d'emplois de 600 postes en France dans cette même branche. Pour Olivier Vassard, délégué du syndicat national de la banque CFE-CGC, ce nouveau plan, c'est donc bis repetita et avant tout la mise en œuvre d'un plan pour retrouver une rentabilité à deux chiffres dans les activités de marché et rester dans la course avec les concurrents. Les départs ne seront pas contraints, ils seront volontaires et il y aura des reclassements en interne. Le syndicat confirme que c'est faisable, mais il va tout de même demander une expertise sur la justification économique de ce nouveau plan.
Plombé toujours et encore par la crise du Covid-19, avec d'un côté une cascade de dépenses supplémentaires et de l'autre des recettes qui fondent le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, doit être examiné à partir d'aujourd'hui pour une semaine par le Sénat, dominé par l'opposition de droite. Près d'un millier d'amendements ont été déposés. Le vote solennel sur l'ensemble du texte aura lieu le 17 novembre. Et puis profitant justement de l'examen de ce projet de loi, UFC Que Choisir appelle ce matin les pouvoirs publics à hausser le ton sur la question de la pénurie de médicaments en France. Le nombre de ruptures signalées a triplé depuis 2016 et les chiffres de l'année 2020 devraient largement dépasser ceux de l'an dernier. Une illustration de plus, selon l'association de consommateurs, des failles de notre système concernant l'approvisionnement en produits de santé tels que la crise sanitaire l'a encore cruellement souligné. Toujours dans cette actualité étouffée par l'épidémie face aux demandes insistantes d'une part dans la communauté médicale d'accélérer la fermeture des lycées et des collèges, mais aussi en réponse à la colère, d'autre part, des personnels scolaires dénonçant les conditions sanitaires actuelles dans les établissements. Eh bien, un nouveau protocole sanitaire renforcé est en place depuis ce matin dans les lycées. Et pour détailler ces nouvelles mesures, Hakim Kasmi a joint pour nous il y a quelques minutes Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire. Il est l'invité de la rédaction.
Édouard Geffray, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de France Culture. Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire. Alors pour commencer, c'est à partir d'aujourd'hui qu'entre en vigueur le nouveau protocole sanitaire dans les lycées. Concrètement, comment va-t-il se dérouler ?
Alors bonjour. C'est pas exactement un nouveau protocole sanitaire. C'est une possibilité d'organisation qu'on a laissée aux lycées en fonction de leur situation propre, notamment de leur taille, du nombre d'élèves, des brassages, etc., d'organiser une partie des cours à distance, sachant qu'il y a quand même des principes évidemment très clairs. Le premier, c'est que dans la mesure du possible, évidemment, on essaie de faire en sorte que les élèves aient le plus possible d'abord cours en présence, autant que possible. Et puis le second, c'est que les élèves doivent avoir au minimum 50% de leur temps scolaire en présence dans l'établissement. Et donc ensuite, c'est un système de rotation qui doit être mis en œuvre au niveau local, donc par le chef d'établissement, avec l'équipe pédagogique. Ça peut être une rotation par niveau, ça peut être par demi-groupe, en fonction du type de configuration et du type de cours.
Alors on le voit avec ce système hybride, que préconise le ministère avec les proviseurs ? Faut-il avoir cours une semaine sur deux ou faut-il avoir cours plusieurs jours par semaine ? Qu'avez-vous préconisé au chef d'établissement ?
Alors, il n'y a pas une seule préconisation, il y a différents modèles qui sont d'ailleurs mis à disposition des proviseurs, puisqu'une fois encore, l'idée c'est d'épouser complètement les réalités locales. Ce qu'il y a de certain, c'est que, évidemment, l'idée c'est que ça peut pas être plus, moi je ne sais pas quelle chose je veux dire, mais enfin pas plus d'une semaine sur deux, c'est-à-dire que il faut pas qu'un élève soit plus de 5 jours à distance de son établissement, tout simplement parce que derrière ça peut devenir assez compliqué. Donc aujourd'hui, on a des établissements qui ont déjà commencé à mettre en place des dispositifs où par exemple, les élèves sont à distance un jour par semaine ou deux jours par semaine, et ils sont présents les trois autres jours. Ce qui compte surtout, c'est que, et ce qu'il faut, je crois, bien mesurer pour tout le monde, c'est que ce n'est pas parce que je suis à distance que je n'ai pas cours, ce n'est pas parce que je suis à distance que je n'ai pas de relation avec mon professeur, ce n'est pas parce que je suis à distance que je n'ai pas de relation avec mes camarades. C'est-à-dire, le temps qu'il y a à distance est bien un temps scolaire. J'ai bien des cours, j'ai du travail en autonomie, j'ai des classes virtuelles. Je continue à travailler, à apprendre, à réfléchir, à écrire et à interagir avec l'institution scolaire.
Alors, Édouard Geffray, normalement, à partir de janvier-février, on aurait dû avoir les examens consistant aux E3C, qui sont les épreuves communes. Vous avez finalement décidé de vous baser uniquement sur le contrôle continu. Mais en revanche, pour les épreuves de spécialité, vous maintenez le baccalauréat classique. Pour quelles raisons n'avez-vous pas voulu mettre en place, là aussi, du contrôle continu ?
Alors non, ce sont deux logiques différentes. D'un côté, on a des épreuves qui relevaient du contrôle continu, mais ce contrôle continu était apprécié sous forme de trois épreuves successives. Et donc là, on l'a remplacé par les notes du bulletin. Et donc là-dessus, je pense que tous les élèves, j'allais dire, peuvent être détendus par rapport à ça et sereins. De l'autre côté, on a des épreuves terminales. C'est des épreuves qui ont lieu au mois de mars, mais c'est des épreuves terminales qui viennent donc s'assurer du niveau d'un élève par rapport à une partie de programme qui a été prédéfinie à l'avance et qui est connue. En revanche, pour que les élèves ne soient pas en difficulté et donc pour qu'on soit sûr que chacun soit pleinement à l'aise pour faire face à l'épreuve, le ministre a décidé de dédoubler les sujets, c'est-à-dire qu'en pratique, chaque élève aura sous les yeux le jour J deux sujets différents ou deux séries d'exercices différents entre lesquels il pourra choisir et qui correspondront à deux parties différentes du programme qu'il aura pu voir d'ici les épreuves.
Alors Édouard Geffray, on le voit, la situation sanitaire reste compliquée, cela pourrait durer encore plusieurs mois, le chef de l'État ne s'en est pas caché, il faudrait peut-être attendre l'été pour avoir un vaccin. Avez-vous prévu un plan B pour les bacheliers si malheureusement la situation sanitaire reste encore compliquée au printemps prochain ?
Alors, il y a un protocole, il y a des règles sanitaires qui, évidemment, si nécessaire, trouveront à s'appliquer au déroulé des examens, si c'est le sens de votre question. Oui, bien sûr. Et il y a surtout une capacité à faire. On a à la fois en termes de locaux, de moyens humains, etc., tout prévu et on est en train de tout anticiper pour que, évidemment, ces épreuves se passent dans le respect des règles sanitaires qui seront applicables à ce moment-là, quelles qu'elles soient.
Donc du coup, cette année, pas question de donner le baccalauréat avec uniquement du contrôle continu, comme ce fut le cas l'année dernière.
Alors d'abord, on donne jamais le baccalauréat. Le baccalauréat n'est pas donné, il est obtenu par des élèves qui passent des épreuves, quelles qu'elles soient, et quels que soient les modes d'évaluation. Et ensuite, effectivement, le ministre a arrêté un certain nombre de décisions qui permettent d'avoir une prévisibilité maintenant jusqu'à la fin de l'année.
Alors l'inquiétude, elle concerne aussi les collèges. Demain, il y a un appel à la grève. Certains enseignants exercent leur droit de retrait. Pour quelles raisons n'avez-vous pas voulu mettre en place un système hybride, comme au lycée, dans les collèges ?
Alors l'organisation des collèges et des lycées n'a rien à voir, puisque d'abord, alors en termes de taille, les lycées constituent généralement les plus gros établissements, là où l'immense majorité des collèges sont des établissements qui sont à peu près deux fois plus petits ou trois fois plus petits que les lycées. Première chose. Et deuxième chose, les lycées sont caractérisés par un brassage beaucoup plus important d'élèves, notamment entre cours, ce qui est nettement moins le cas des collèges. Donc voilà, aujourd'hui, à la lumière de l'ensemble de ces éléments et aussi des observations qu'on peut faire sur le terrain, les règles qu'on a fixées s'appliquent effectivement pour les lycées.
Ce qui n'empêche pas une inquiétude de la part aussi des profs de collège, dont certains exercent leur droit de retrait depuis la semaine dernière.
Je crois que ce qu'il faut qu'on ait tous bien à l'esprit, c'est que et toutes les études qu'on a faites l'ont montré depuis début de septembre. La contamination a été très faible dans les écoles, collèges et lycées. Et en fait, les points, j'allais dire, sensibles, ce sont les questions de circulation, de cantine, etc. Tant que tout le monde porte un masque dans une pièce qui est régulièrement aérée, le risque est considérablement diminué, et ce qu'on soit à l'école, au collège ou au lycée, à partir du moment où les groupes sont relativement stables.
Édouard Geffray, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de France Culture. Et tout de suite, on retrouve à la maison de la radio Thomas Cluzel.
Voilà, Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, et merci à vous, Hakim Kasmi. Sans surprise, Jean-Luc Mélenchon a proposé hier sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Le chef des Insoumis a toutefois sollicité une investiture populaire de 150 000 signatures afin d'asseoir une position qu'il sait fragile par rapport au précédent scrutin. Alors pour mettre fin à ce vrai faux suspense, Jean-Luc Mélenchon aura dû attendre de longues minutes, la toute fin du journal télévisé, notamment des pages consacrées à la fois aux élections américaines mais aussi au coronavirus. Et à ce titre, on remarquera que si l'agenda politique aujourd'hui des candidats déclarés ou supposés peut parfois sembler, c'est vrai, anachronique, compte tenu notamment de cette crise sanitaire, sécuritaire, eh bien, force est de constater, Stéphane Robert, qu'ils sont malgré tout de plus en plus nombreux à se bousculer au portillon de la course à l'Élysée.
Oui, il faut d'ailleurs noter que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le premier à se déclarer. Marine Le Pen l'avait précédé, elle avait annoncé sa candidature le 16 janvier dernier. Et puis on voit depuis quelques jours s'additionner les apparitions médiatiques de candidats potentiels. Arnaud Montebourg a réapparu dans le débat public en publiant la semaine dernière un livre intitulé « L'engagement ». Il avait de longue date préparé cette séquence puisque devait se tenir ce week-end le salon du Made in France. Un salon finalement annulé en raison de la reprise épidémique. On a aussi beaucoup vu et entendu Bruno Retailleau. Ces derniers jours, le patron des sénateurs Les Républicains ne fait lui non plus pas mystère de ses ambitions élyséennes et lui avait calqué son agenda politique sur la fenêtre médiatique que lui offrait le départ du Vendée Globe, la course autour du monde à la voile. La Vendée, c'est son département, il en fut jadis le président. D'autres candidats à la candidature ont également fait savoir qu'ils existaient ce week-end. Laurent Wauquiez était l'invité de Dimanche en politique sur France 3. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a rappelé sur RTL et LCI cette idée qu'elle pousse depuis des années, qu'on aurait bien besoin d'une Angela Merkel à la française, suivez son regard. On a aussi beaucoup vu ces dernières semaines, à gauche Anne Hidalgo, à droite Xavier Bertrand. Et on peut dès lors s'interroger, pourquoi si tôt et est-ce bien le moment en plein confinement? Pour répondre à ces questions, il faut considérer qu'il y a une différence de temporalité entre le politique et le médiatique. Le temps politique est un temps beaucoup plus long que ce qu'impose l'urgence de l'actualité. Pour être un candidat sérieux, crédible, il faut se préparer de longue date. Même si le temps politique s'est accéléré ces dernières années, la présidentielle est une course de fond, pas un sprint. C'est la raison pour laquelle le prérequis à une hypothétique victoire est qu'il faut, quoi qu'il arrive, avoir au préalable figuré sur la photo de départ.
C'était le 9 novembre 1970, le général de Gaulle décédait à Colombelles-les-Deux-Églises. 50 ans après, le président Emmanuel Macron a donc décidé de faire le pèlerinage aujourd'hui pour rendre hommage à son prédécesseur. Fondateur de la Ve République et devenu une figure tutélaire, célébrée d'ailleurs tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, chacun revendiquant désormais une partie de son héritage. Quel sera son héritage à lui? Probablement de laisser un pays plus faible, plus pauvre, plus malade et plus divisé que jamais, ou quand la défaite de Donald Trump aux États-Unis donne la mesure du défi qui attend désormais le nouveau président Joe Biden, restaurer l'âme de l'Amérique. Et d'ailleurs, dès l'annonce de sa victoire, le candidat démocrate s'est tourné vers les préparatifs de son accession à la Maison-Blanche avec deux priorités affichées. D'une part, la lutte contre la pandémie. Et d'autre part, la réconciliation d'une Amérique fracturée. Et ce quand bien même, Donald Trump ne se lasse toujours pas, lui, de se donner en spectacle, non seulement en refusant de reconnaître sa défaite, mais en engageant par ailleurs plusieurs actions en justice. Alors évidemment, on imagine déjà combien cette situation risque de compliquer la transition de 2 mois et demi, durant laquelle les équipes sur le départ sont censées transmettre aux nouveaux arrivants quantité de dossiers et d'informations confidentielles. Notre correspondant à Washington, Gregory Phillips, a rencontré Robert Mallet, qui fut le conseiller de 2 présidents démocrates, en l'occurrence Bill Clinton et Barack Obama. Il a donc vécu 2 fois ces fameuses périodes de transition et nous raconte comment tout cela se passe.
Le 10 novembre 2016, à 10h du matin, Barack Obama reçoit dans le bureau ovale Donald Trump, élu 2 jours plus tôt. La conversation entre les deux hommes dure 90 minutes. Le président Obama promet la totale coopération de ses équipes pour la période de transition qui s'ouvre. Robert Mallet était alors au Conseil national de sécurité, en charge du Proche-Orient.
On a préparé d'abord des dossiers sur tous les sujets, un dossier sur la Syrie, sur le Liban, sur l'Irak, sur la question palestinienne. Évidemment, ils posaient des questions qui reflétaient leur scepticisme vis-à-vis de la politique du président Obama, surtout vis-à-vis de l'Iran. Les discussions étaient assez amical.
Le président sortant n'a pas concédé la défaite. Comment ça va se passer à votre avis?
Est-ce qu'ils vont refuser de transmettre les dossiers? Est-ce qu'ils vont refuser de briefer l'administration? Ça peut vraiment compliquer les choses parce que ça veut dire que le 20 janvier, 21 janvier, lorsque l'équipe du président Biden prend les rênes, eh bien, ils devront commencer à zéro sans savoir vraiment ce qui s'est passé de ce qui est dans le domaine confidentiel, dans le domaine des opérations secrètes, dans le domaine des engagements qui ont pu être faits mais qui ne sont pas publics, ça peut compliquer les choses de façon très très significative.
Le plus souvent, ces périodes de transition se déroulent sans incident, sauf à l'automne 2000. Les équipes de George W. Bush, nouvellement élu, avaient trouvé dans les placards ou sur les bureaux des mots peu sympathiques, des fils de téléphone coupés. Sur les claviers de certains ordinateurs, la lettre W, W avait été retirée. Blague de potache au cœur du pouvoir américain, les dégâts avaient été estimés à environ 15 000 dollars.
Alors nous évoquions tout à l'heure l'héritage laissé par Donald Trump. Le 45e président des États-Unis aura en partie contribué à banaliser les régimes autoritaires et à la suite de sa défaite. Eh bien, certaines réactions en témoignent. Si depuis ce week-end, la plupart des pays européens, mais aussi Israël, le Canada ou bien encore l'Inde ont déjà salué la victoire de Joe Biden avec des messages de félicitations. En revanche, d'autres pays restent pour l'instant plus discrets, voire attendent toujours avant de s'exprimer, de reconnaître la victoire du démocrate à la présidence américaine. C'est le cas notamment du Brésil, mais aussi de la Chine et de la Russie. Les précisions de Nathanaël Charbonnier.
Nous sommes deux jours après l'annonce de la victoire de Joe Biden et Vladimir Poutine n'a toujours pas félicité le nouveau président américain. Et surtout, il ne compte pas le faire avant l'annonce du résultat officiel. C'est en tout cas ce qu'explique ce matin un communiqué du Kremlin qui précise juste que le président russe respectera le choix du peuple américain. Il faut dire que Poutine sait que l'arrivée du démocrate n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Biden sera moins imprévisible que Trump, certes, mais il sera surtout moins docile dans des dossiers comme l'Ukraine, la Crimée ou encore la Biélorussie. Nous sommes deux jours après l'annonce de la victoire de Joe Biden et la Chine reste bien silencieuse également. Pas de félicitations pour le nouveau président, juste une validation du résultat de l'élection. Non seulement les Chinois ne s'attendent pas vraiment à une évolution de la politique américaine, mais en plus, ils redoutent des critiques plus vives, par exemple dans le domaine des droits de l'homme. Nous sommes deux jours après la victoire de Joe Biden et le Brésilien Bolsonaro se fait lui aussi bien discret. Celui que l'on surnomme le Trump des tropiques vient de perdre un allié et surtout un modèle. Conséquence, le président Bolsonaro se retrouve isolé. Réchauffement climatique, Covid-19, crise économique, sur tous ces sujets, il ne pourra plus compter de la même façon sur l'allié américain et cela pourrait changer bien des choses dans la région.
Après avoir fait près de 200 morts ou disparus en Amérique centrale et tout particulièrement au Guatemala, la tempête tropicale Eta devrait atteindre aujourd'hui les côtes de la Floride, déjà frappée par des inondations. On votait hier en Birmanie des élections législatives qui devraient permettre au parti d'Aung San Suu Kyi, toujours adulé par une majorité de la population, de conserver le pouvoir. Les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs jours. Précisons que la Constitution empêche actuellement l'ancienne prix Nobel de la paix, ex-icône de la démocratie, devenue une paria à l'international, de prétendre à cette fonction pour la simple raison qu'elle a été mariée à un étranger. En revanche, la dame de Rangoon, pointée du doigt dans le drame des Rohingyas, pourrait se voir renommée conseillère spéciale de l'État, un poste créé sur mesure et qui lui permet de facto de diriger le pays. Lui aussi avait reçu le prix Nobel de la paix l'an dernier pour avoir normalisé les relations de son pays avec l'Érythrée. Le premier ministre éthiopien a limogé hier le chef de l'armée, 4 jours après le lancement d'une vaste offensive militaire contre la région sécessionniste du Tigré et qui menace désormais de tourner à la guerre civile. Reportage à Gondar, au sud de la ligne de front, signé Noé Hochet-Baudin.
Dans les rues de Gondar, plusieurs pick-up lancent en boucle un appel à la mobilisation. Un appel qui va du don du sang à toute autre contribution utile pour les forces gouvernementales. Awoke Mamo s'investit personnellement dans l'effort de guerre.
Je soutiens complètement nos forces armées. J'utilise ma propre voiture pour transporter de la nourriture et de l'eau que j'amène près de la ligne de front. Sur le retour, je ramène les blessés. C'est ma contribution.
L'accent est mis sur la collecte de nourriture effectuée par le chef de l'administration de Gondar Sud, Awoke Zemene, qui s'apprête à envoyer un nouveau camion d'approvisionnement.
Dans ce camion, il y a des céréales, du sucre, de l'huile, des biscuits, tout ce qu'on peut trouver pour soutenir nos forces. Chacun contient 35 000 euros de marchandises recueillies auprès des communautés.
Les hommes sont nombreux à vouloir s'enrôler. Zemene Tsege fait partie des candidats.
Oui, je veux y aller, mais on doit bien s'organiser pour cela. Je veux combattre le TPLF, qui a commis des crimes horribles contre les Amaras. Je veux y aller, même si je ne sais pas combattre, je serai toujours utile.
Alors que certains souhaitent partir pour le front, des soldats en reviennent déjà et peuvent être aperçus dans les rues de la ville.
Un reportage en Éthiopie signé Noé Hochet-Baudin. En Biélorussie, plus de 800 manifestants ont été interpellés hier durant un rassemblement de l'opposition qui, depuis 3 mois, jour pour jour, c'était le 9 août dernier, date de l'élection présidentielle contestée, marquée par des accusations de fraude massive, continue inlassablement de réclamer la démission d'Alexandre Loukachenko. Et puis en Géorgie, hier, des dizaines de milliers de partisans de l'opposition sont descendus dans la rue pour réclamer de nouvelles élections législatives, accusant les autorités d'avoir truqué les précédentes remportées de justesse par le parti au pouvoir. Enfin, le président démissionnaire du Kosovo, accusé de crimes contre l'humanité perpétrés durant la guerre d'indépendance contre les forces serbes, comparaît aujourd'hui et pour la première fois devant le tribunal spécial de la Hèche. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi généralement couvert avec de rares éclaircies, mais aussi localement quelques averses. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.